Bonjour à tous et à toutes. Nous voici maintenant sur une nouvelle webconf concernant les êtres de la nature et on va parler de tout ce qui touche pour l'instant l'eau encodée. Une question de Pierre 11. Ma question concerne les 2C2P. J'ai rencontré le week-end dernier des géobiologues qui ont beaucoup d'expérience, dont un qui est spécialiste du domaine de l'eau. Je leur ai présenté un échantillon de l'eau encodée 2C2P, seconde génération, en leur disant juste qu'elle avait été encodée avec un cristal spécial, et je n'ai donné aucun autre détail. Et je leur ai demandé de regarder ce qu'ils voient au niveau informationnel, puis qu'ils mesurent le niveau vibratoire en bobine, sachant que je conserve l'eau dans une bouteille avec un cristal dedans en permanence. Au niveau informationnel, ils ont testé l'échantillon avec un système qui s'appelle RMED. Ils maîtrisaient bien la méthode de test, mais n'étaient pas spécialistes dans l'interprétation des résultats. Il y a un spécialiste en France à qui il faudrait que j'essaie de soumettre les résultats du test. Mais en première approche, ce qu'il ressort m'a semblé intéressant. Globalement, cette eau est considérée comme modifiée par de la magie positive. Sur les aspects liés au conscient, il semble qu'elle ait un impact très positif sur le corps et l'esprit, mais qu'elle soit totalement neutre sur les aspects liés à l'âme. Elle en annulerait les effets. Ça correspond parfaitement à ce que tu nous dis, puisque cette eau est censée supprimer toute donnée vibratoire involuante liée aux formes pensées, aux mémoires collectives, transgénérationnelles, etc. Au niveau du plan de la conscience, cette eau aurait un impact positif sur l'un des plans de l'esprit, mais serait totalement neutre sur certains de ses sous-plans, je n'ai pas compris lesquels, et complètement neutre pour le corps et l'âme. Il me semblait intéressant de te tenir informé de ces premiers résultats obtenus complètement à l'aveugle, sans expliquer ni avant ni après. J'essaierai d'en savoir plus prochainement. Par contre, un aspect m'interpelle plus. Il s'agit du taux vibratoire. Plusieurs personnes ont mesuré le taux en bovis de façon indépendante. L'eau est en bouteille depuis des mois et renouvelée selon ton protocole en laissant toujours une partie dedans. Et il s'agit d'une eau puisée, une source en montagne. Et là, j'ai été stupéfait. L'eau atteint péniblement 9000 bovis, moins que de l'eau du robinet passée dans un système à osmose inverse et légèrement vortexée. J'ai un peu de mal à comprendre car ça ne correspond pas du tout à ce que l'on se dit. Aurais-tu une explication? Alors bon, on va commencer à répondre. Alors moi, personnellement, je n'ai pas d'explication directe. La seule chose, c'est que l'énergie, on va dire, qui est dans l'eau de ces 2P, eh bien, dépasse très, 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 très largement les échelles des valeurs classiques des gens qui mesurent en unité bovis. Donc, le résultat concret, soit les gars qui ont mesuré ont pas compris que ça dépassait largement les 90 000 unités bovis de leur truc à eux, parce que bon, généralement, la plus grande échelle qu'ils ont, c'est ça. Ça c'est une chose qui est claire, et il y a une autre façon aussi d'expliquer, c'est-à-dire que chaque personne a sa façon de mesurer, et nous avons regardé que la même eau mesurée par des personnes différentes vont avoir des chiffres différents. Alors malgré la petite phrase que j'ai mis sur le protocole du cadran pour mesurer on va dire les unités bovis, eh bien, apparemment, ça n'a pas l'air d'être le cas de tout le monde, c'est-à-dire chacun mesure en se disant, ouais, voilà, c'est ça. Mais il ne répète pas la phrase. Donc, le résultat, il y a donc un manque de référence. Ça, parce que moi, c'était ce que j'avais mesuré au départ. Je voyais bien que la même eau, je la mesurais tous les jours d'une manière différente. J'avais fait cette phrase de telle manière, enfin je l'avais fait suite au conseil de mes guides, je l'avais fait pour effectivement éliminer tous les paramètres, on va dire, variables. Donc, ces personnes, un, n'ont pas, on va dire, forcément conscience de ça. Deuxièmement, eh bien, peut-être que s'ils remesuraient un tout petit peu plus tard, ils verraient les choses différemment. Mais une chose est claire, c'est que si ton eau allait mesurer à 9000 unités bovis par 7 ou ces personnes qui sont géobiologues, si tu les fais mesurer à d'autres personnes qui boivent de l'eau encodée, peut-être que tu aurais des chiffres très différents. Mais une chose est claire, la même eau mesurée par 3 personnes différentes aura 3 chiffres différents. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc c'est pour ça que quand je mesure, on va dire, mon eau de référence, maintenant je le fais quasiment plus parce que il y a une chose qui devient énervante pour moi et que je ne désire pas renouveler parce que c'est chiant, faut le dire, c'est que quand je mets mon pendule, enfin, je mets l'eau sur mon cadran, enfin tout le truc, je fais le protocole, dès que je mets mon pendule dessus, eh bien, je suis obligé de demander d'abord, parce que vous savez, sur le premier cadran, ça va on va dire, de 0 à 10, hein, globalement. Donc, vous avez les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 9, et je demande quelle est l'unité de mesure. Alors, je demande, est-ce que je prends l'unité de mesure en 10 puissance 1 million d'unités bovis? Alors, ça me répond oui ou non. Après, je dis, ben voilà, est-ce que c'est 100 millions? Est-ce que c'est 1 milliard? Est-ce que c'est 10 milliards? Comme ça, eh bien, quand mon pendule va osciller, par exemple, entre 3 et 4, eh bien, je sais que si il a dit OK pour 1 milliard ou 10 milliards, eh bien, je sais que ça sera, par exemple, si c'est 10 milliards, ben, ça sera entre 30 et 40 milliards. Et ça me permet, comme ça, d'avoir un ordre d'idée assez rapidement. Donc, je ne mesure pas précisément, je veux simplement avoir un ordre d'idée. Pourquoi? Parce que, tout simplement, plus l'eau augmente, plus mon pendule devient, excusez-moi, fou. C'est-à-dire que grosso modo, en mettant le pendule à la verticale, au-dessus donc du point zéro du cercle, eh bien, il commence à se mettre à tourner, et il se met tellement à tourner fort qu'il en est à l'horizontale. C'est-à-dire, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, mais à une vitesse à casser la chaîne. Et le truc, c'est que ça dure 1 minute. Et bon, bah, arrive un moment, j'ai dit, bon, tu te calmes un peu, parce que là, si c'est ça, moi, je mesure plus du tout, quoi. Et bon, il a l'air de veiller un peu, et puis parce qu'il sait que j'ai pas besoin d'avoir quelque chose d'extrêmement précis, c'est juste un ordre d'idée. Et puis vous vous calmez un tout petit peu, et hop, après il oscille dans la direction. Donc, prendre une mesure et que ça prenne plus d'une minute, voire 1 minute et demie pour chaque mesure, moi ça me gave, donc je laisse tomber. L'essentiel, c'est d'avoir une notion de à peu près à combien elle est. Donc quand je prends mon eau de référence, je demande, dire, voilà, on est en combien? Échelle 1 milliard, enfin 10 puissance 1 milliard, je vous signale, 10 puissance 10 milliards. Et puis s'il répond toujours oui, qu'il faut que j'aille plus loin, bon ok, d'accord. Donc la dernière fois que j'ai mesuré, je crois qu'il était passé à 15 milliards, un truc comme ça, 10 puissance 15 milliards. Bon là maintenant, ça commence à faire un petit peu de temps. Hein, on va dire, ça fait au moins 2 mois que je ne l'ai pas mesuré. Là, je suis sûr que je dois être dans la centaine de milliards, 10 puissance centaine de milliards par rapport à moi. Donc, ça veut absolument plus rien dire du tout. Donc, j'ai orienté, on va dire, comme vers d'autres axes. Et c'est ça qui est important de voir, c'est que bon, l'eau encodée est quelque chose d'extraordinaire. Et j'aurai l'occasion d'aborder le sujet, on va dire, concernant non seulement l'encodage et la puissance de l'encodage, c'est surtout la qualité de l'eau elle-même. Et comme tu as pu le dire, Pierre, eh bien, une eau qui est osmosée n'a pas du tout la même, on va dire, patate, la même, enfin, c'est pas patate, n'a pas les mêmes qualités qu'une eau du robinet classique. Donc, il y a un certain nombre de choses que je suis en train de, on va dire, travailler dessus en faisant des essais sur mon humble personne ainsi que Corinne, bien sûr. Et je vous ferai part des résultats parce que actuellement je suis, on va dire, en lien avec une personne qui est une spécialiste de l'eau aussi et qui, on va dire, va se spécialiser un tout petit peu dans les systèmes à monter par rapport à l'eau encodée. En effet, j'ai remarqué qu'en prenant un osmoseur classique, ce qui est déjà un osmoseur, c'est déjà quand même la Rolls. Mais on peut encore enrichir les choses. Et donc, j'ai fait plusieurs essais de plusieurs choses, et en ce moment, je suis en train de faire les combinaisons, et tout ça, bien sûr, sous la direction de mes guides qui me donnent les résultats, parce qu'eux, ils voient effectivement ce qui se passe au niveau de notre corps, qu'aucun appareil physique dans notre monde n'est capable de mesurer et de voir. Donc, en fonction des différents mélanges, des proportions et des différents types d'eau que nous utilisons, eh bien, nous arrivons, on va dire, à des résultats qui commencent à devenir très sympathiques, Et donc, cette personne, en ce monde de tridimensionnalité, eh bien, nous devons nous rencontrer la semaine prochaine. Hein, il va venir à la maison pour que je lui explique le topo, plus précisément, et de voir s'il est capable de construire, on va dire, les machines, parce que actuellement, il faut savoir que j'utilise plusieurs technologies qui ne sont pas vendues ensemble sur le marché. Hein, vous savez qu'on est dans un monde de concurrence, de dualité, de compétition, et donc certains optent pour telle option, d'autres pour telle option, d'autres pour une autre option, et ils ont tous raison et tort à la fois. C'est-à-dire que chacun de leurs systèmes est bon, mais il est incomplet. Et parce qu'ils n'ont pas les instruments, ils n'ont pas la capacité de voir ce que ça fait exactement, eh bien, ils ne peuvent pas trouver les combinaisons et qui les mettraient tous d'accord. Et donc en ce moment, eh bien, j'ai monté à la maison un système qui, on va dire, apprend, on va dire, pas quatre technologies différentes, mais quatre façons de faire différentes, qui sont assez poussées, il faut dire, mais qui, grâce à notre guide de l'invisible, nous permet de pouvoir trouver les combinaisons exactes et dans l'ordre dans lequel il faut les mélanger. Donc, pour arriver à un résultat, on va dire, tout à fait honorable. Alors, l'aspect abordable, j'y travaille énormément, car le but est de démocratiser au maximum. Et après, bah, disons que là, pour l'instant, je suis obligé d'acheter des systèmes, on va dire, séparés, que je démonte, afin de remonter l'autre. Et une fois qu'on aura trouvé... Parce que maintenant, la difficulté, c'est qu'il faut voir sur au moins le moyen terme. À court terme, on a vu les résultats, mais il faut maintenant voir sur le moyen terme, c'est-à-dire attendre au moins 15 jours ou 3 semaines pour voir si la combinaison que nous avons trouvée aujourd'hui est tout à fait honorable et tient bien la route. Donc, nous sommes des souris de laboratoire, comme vous pouvez le voir, et c'est très, 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 très intéressant de s'amuser à cela parce que nous voyons à chaque coup, puisque maintenant on a, on va dire, développé une certaine capacité à ressentir la vibration de l'eau, sa densité. Je ne parle pas de goût ni d'odeur et tout ça, parce qu'il n'y a plus de goût, il n'y a plus d'odeur, mais c'est assez extraordinaire. Simplement, bon, il faut attendre encore un tout petit peu. Et donc, eh bien, cette personne sera son site web sera en ligne et développera donc les solutions, la solution optimale avec bien sûr des variations, des déclinaisons en fonction bien sûr du coût. C'est-à-dire que bah, il est évident qu'on peut pas avoir la Rolls méga, méga, méga Rolls en disant je vais mettre 50 euros sur la table. On est d'accord, il y a quand même un minima syndical. Mais vous allez voir que ça n'a absolument, mais vraiment absolument rien à voir avec les prix du marché. Donc tout ça c'est un ensemble, nous allons voir, on y travaille. Ok? Bien, donc concernant la mesure, j'en ai parlé. Donc là, à faire mesurer par d'autres, parce que de l'eau encodée, si c'est un truc de référence comme tu dis, et qu'elle est qu'à uniquement 9000, c'est qu'il y a un blême quelque part. Il y a un blême quelque part, parce qu'un simple caillou mis dans une bouteille, même si tu la bouges pas au bout d'un mois, elle sera facilement à 1 million ou plus. Donc il y a un truc. Donc comme je dirais, il y a une erreur de mesure, parce que certains paramètres n'ont pas été pris en compte. Autre élément intéressant, lorsqu'on pose un verre d'eau encodé sur une table et qu'on tape un grand coup sur la table, l'eau perd instantanément toute son information. On a pu tous le vérifier, c'est valable pour toute eau porteuse d'information. Eh bien oui, c'est un encodage moléculaire. Donc ce qui veut dire que quand on applique un choc, on va dire, brutal, c'est-à-dire une fracture, eh bien l'eau semble se désinformer. C'est-à-dire prend l'information, c'est-à-dire c'est comme si elle avait eu un électrochoc, qui fait que toute l'information qui était dedans était, on va dire, évacuée. Donc ça, d'ailleurs, c'est une technique qui est utilisée, je crois, pour virer toutes les informations qu'il y aurait dans un pendule, par exemple. Quand un pendule est chargé, eh bien, il suffit de tenir le pendule dans la main, dans le creux de la main, et avec le bras, vous faites un coup sec. Et à ce moment-là, vous le tapez contre un meuble, une table, enfin quelque chose pour pas l'éclater, mais un truc très sec, très brusque, et théoriquement, l'information qui est contenue dans ce pendule s'en va. Donc, c'est la même chose vis-à-vis de l'eau. Je vous rappelle que l'eau encodée est encodée moléculairement parlant. Ça veut dire qu'elle est effaçable. Ce sont les deux C2P qui, là, eux, ils sont pas effaçables. Hein? Et c'est ce qui fait la force, on va dire, de cette, on va pas dire technologie, mais de cette innovation. C'est-à-dire que on a la capacité d'avoir toujours quelque chose qui est une référence et qui ne bouge pas. C'est-à-dire les cristaux. Autre question, lorsqu'on pose un verre d'eau informé sur un stroboscope et un verre d'eau normal et qu'on active le stroboscope, l'information se duplique en quelques secondes dans l'eau normale grâce au flash de lumière. Ce serait valable pour toute information portée par l'eau. Intéressant. Notamment, tout le monde peut se faire gratuitement son breuvage homéopathique à la maison par cette méthode. Merci pour tes éclaircissements. Donc effectivement, la lumière transporte. Et vous savez très bien que quand vous mettez une bouteille d'eau encodée parmi d'autres bouteilles d'eau encodées, même si l'eau se touche pas, ça sera quand même encodé. Hein. C'est-à-dire qu'il y ait stroboscope ou pas, de toute façon, ça se fera encodé. Le programme d'encodage est, on va dire, dépasse l'aspect purement matériel. Je vous rappelle que les unités que nous mesurons au niveau de la, on va dire, de l'énergie, est en fait une unité dimensionnelle. Et c'est pour ça que ça s'en va vers des scores. Ça veut plus rien dire. Vous savez, 10 puissance 1 milliard, ça veut dire quoi? Rien. On n'a absolument aucune perception de tout cela. La seule chose qu'on peut savoir, c'est que, comme je vous avais dit, l'encodage commence à décrasser, bien sûr, le plus facilement. Ça sera à partir de la 12e dimension. En effet, la 12e dimension va, on va dire par rapport à la première dimension, 4096 fois plus vite. Donc, ce qui veut dire qu'en temps d'une seconde, en 1D, sera pédalé 4096 fois dans la 12D. Donc, vous pouvez imaginer que le programme de l'encodage du DC2P va avoir une influence extrêmement rapide dans les hautes dimensions, et progressivement, bien sûr, ça va descendre dans les dimensions inférieures. Inférieures en fréquence, d'accord ? Donc, s'il faut, admettons, je vais dire des conneries, mais c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée, s'il faut qu'il y ait 1000 sinusoïdes, hein, c'est-à-dire 1000, je ne me rappelle même plus les mots, c'est quand même fou ça. Bref, il faut compter, il faut qu'il y ait 1000 fois, 1000 battements dans l'eau pour qu'elle soit encodée, on va dire, à 10 puissance 1 million. Eh bien, quand ça sera en 12D, comme ça va 4000 fois, ça veut dire en un quart de seconde, ça sera fait. Donc ça va vite. Puis après, bah, quand on va à la 11D, c'est pas un quart de seconde, ça sera une demi-seconde. Et puis après, bah, quand on passe à la 10D, bah, ça sera une seconde. Hein? Et puis ainsi de suite. Donc avant d'arriver, on va dire, à la 1D, eh ben, je sais pas combien de temps ça prendra, mais ça prendra 1 minute, 2 minutes, 3 minutes ou 4 minutes. Vous comprenez le truc, donc ça prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça que quand on boit de l'eau encodée, on commence déjà à sentir, pour les gens qui sont suffisamment sensibles, on commence à sentir qu'on a des aptitudes, des trucs bizarres en termes d'être-té. C'est-à-dire les choses nous semblent plus faciles à faire. On abandonne plus facile les choses, enfin le lâcher-prise est plus facile. Et c'est normal puisque ça appartient, on va dire, d'une certaine manière, à des dimensions au-delà de la 3D. On va dire, ça décape de plus en plus. Mais il est évident qu'au bout d'un certain temps, l'eau encodée va commencer véritablement à faire du ménage dans la 6, dans la 5, dans la 4, dans la 3, dans la 2 et dans la 1D. Et donc, de ce côté-là, plus on descend dans les cordances, et plus on va sentir, comme on dit, la chose passée. Hein? Donc, boire de l'eau encodée nous fait monter, on va dire, en fréquence, dans le sens où ça libère les hautes fréquences. Donc on monte en fréquence d'une certaine manière, mais quand ça va s'attaquer de plus en plus à une, comment dire, à des densités plus basses, nous allons sentir des malaises, hein, parce qu'il va y avoir une rectification réelle et sérieuse. Donc plus une eau est montée en énergie, on peut dire, plus ça veut dire qu'elle aura une capacité à décrasser les basses densités. C'est-à-dire à pénétrer les basses densités, puisqu'elle a plus de patates. Car rappelez-vous que Quand vous êtes dans les hautes densités, vous êtes quasi éthéré. Donc, il n'y a pas de résistance en face de vous. Puis plus vous descendez, et plus ça devient lourd. C'est un petit peu comme, on va dire, l'eau, quoi. C'est-à-dire, à la surface, vous pouvez nager, il n'y a pas de problème. Et puis, plus vous descendez, et plus vous vous rendez compte que le moindre mouvement va vous coûter des efforts énormes. Eh bien, c'est ce qui se passe au niveau de l'eau encodée. Plus ça va descendre dans la densité, et plus il y a de la difficulté. Donc là, il y a intérêt à avoir, on va dire, une patate supplémentaire. Voilà. Donc c'est en cela que l'eau encodée, qui est bien montée en puissance et qui continue à monter en puissance, ne fait que pouvoir aller de plus en plus loin en profondeur. Alors, il y a, j'ai eu l'occasion d'aller sur Facebook comme ça, histoire de voir, et quelqu'un m'avait laissé un commentaire, mais c'était un commentaire à un autre qui faisait, mais c'était quand même assez intéressant de la façon dont il voyait les choses. C'était que tout simplement, il disait, ouais, il y a que Laurent qui peut boire son eau encodée, tatati, tatata, alors il se croit plus élevé que tous les autres. C'est juste une histoire comme de la plongée sous-marine. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas habitué à la plongée sous-marine et qu'on vous met une tenue de combina... enfin, une combinaison avec des bouteilles, on dit maintenant tu vas aller à 100 mètres de profondeur, je peux vous dire qu'avant d'arriver à 100 mètres de profondeur, vous allez péter un câble parce que vous serez oppressé, vous aurez des réactions physiques que vous n'avez absolument pas l'habitude, votre cœur va se sentir comprimé parce qu'il y a toute la pression qui appuie sur vous, donc il va falloir qu'il fasse des efforts auxquels il est absolument pas habitué. Donc ce n'est pas une histoire d'être élevé ou pas, c'est-à-dire que c'est une histoire d'entraînement. Et c'est pour ça que quand vous faites votre eau, eh bien c'est votre eau à vous. C'est-à-dire que vous montez en puissance, à fur et à mesure qu'elle monte en puissance, votre corps s'y accorde. Et donc, vous apprenez petit à petit à descendre de plus en plus profond. Et vous y allez à votre vitesse. Ok? Si maintenant, vous prenez une eau qui est montée à 10 puissance 10 milliards et vous donnez à celui qui n'a jamais, qui sait même pas nager, c'est l'explosion directe. C'est comme l'emmener à 200 mètres de profondeur, alors qu'il ne sait même pas nager, il sait même pas, c'est tout juste, il sait ce que c'est de l'eau, quoi. Enfin, le poids de l'eau, quoi. Donc, c'est en cela qu'il faut faire attention, qu'il faut y aller. Quand vous avez des eaux qui sont très très élevées en énergie, d'éviter de le donner comme ça à vos invités qui arrivent juste histoire d'eux, quoi. Bon, si vous savez qu'ils vont boire un verre ou un demi-verre, vous pouvez tenter, ça va leur faire tout drôle, mais pas question de dire, tiens, ils vont rester une semaine à la maison, ils vont boire que de l'eau comme ça. Nous avons vu cet effet sur les parents de Corinne qui sont venus à la maison. Le premier jour, ils ont dit non, bon, c'est de l'eau, ouais, on la boit. Mais au bout de 3 jours, ils ont senti la nuance, car il faut quand même un certain temps à l'eau pour pouvoir, vous savez, c'est le cycle des 3 jours. Mais je peux vous dire qu'au bout de la troisième journée, ils sentaient qu'il se passait quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on peut, faut faire attention, quoi. Quand c'est votre eau à vous, il n'y a pas de problème. Vous savez où vous en êtes. Hein? Vous savez où vous en êtes. Donc si, d'une certaine manière, vous servez cette eau-là à toute la famille, mais vous le faites comme vous, c'est-à-dire que ça suit gentiment, ils sont entraînés, ils s'en rendent pas compte, mais ça fait du ménage, et c'est progressif. Mais par contre, pour des étrangers qui n'ont absolument pas l'habitude, là, c'est quand même un peu risqué. Hein? Voilà, c'était bon, une petite aparté. Donc, on va dire, je ne suis supérieur à personne. Disons que simplement, en tant qu'ouvreur de chemin, je suis dans des profondeurs un petit peu plus loin. J'ouvre le chemin, c'est tout. Mais il n'y a pas de supériorité en quoi que ce soit, car l'objectif, c'est que vous y passiez aussi. Donc, si je suis à 100 mètres avec Corinne en ce moment, vous allez y être à 100 mètres. Mais quand vous serez à 100 mètres, moi, je serai peut-être à 150. C'est normal, j'ouvre le chemin avec Corinne. Donc, il n'y a pas de supériorité en ça. C'est simplement notre, on va pas dire fonction sur cette planète. Donc, on ne voit pas où est le. Et c'est pas un don. C'est pas quelque chose d'exceptionnel que vous ne pourrez jamais avoir. Non. Rappelez-vous. L'objectif, c'est que le maximum de gens montent en fréquence. Donc, il n'y a pas de supériorité, d'infériorité, mais il y a forcément, on va dire, une certaine hiérarchie en profondeur de celui qui va essayer, quoi. Il est évident que celui qui a 30 ans d'expérience n'aura pas la même expérience que celui qui vient d'arriver, qui débarque, qui ne sait même pas de quoi ça retourne. Hein. Donc, c'est déjà encore dans la dualité où vous sentez qu'il y a quand même une jalousie. Bien, une question de Marielle. Moi aussi, je voulais poser cette question sur l'eau encodée. Dimanche dernier, mon eau était à 10 puissance 1300. Je trouve que ce n'est pas beaucoup. Depuis le début de septembre, je fais comme Laurent nous a expliqué. Je laisse toujours un peu d'eau dans une bouteille et j'attends quelques jours avant de la remplir. Je n'ai que 12 bouteilles. Peut-être que ça vient de là. Alors, il y a plusieurs choses. Un, d'abord, tout dépend de l'eau que tu as. Deux, ça dépend aussi du nombre de cristaux que tu as. Parce que j'ai remarqué une chose. C'est que si, comment dire, si tu prends une bouteille, on va dire, de 5 litres, que tu mets un de ces 2P, t'imagines que ce petit de ces 2P, il est minuscule par rapport, en termes de masse, par rapport au reste de la bouteille. Donc, il va lui falloir un temps fou pour arriver à monter tout ça en puissance. Si par contre, ton petit cristal, tu le mets dans un demi-verre d'eau, là, il n'y a pas beaucoup d'eau. Et donc, comme il n'y a pas beaucoup d'eau, la masse du cristal est importante par rapport à la masse de l'eau. Et donc, à ce moment-là, la montée en puissance va être extrêmement rapide. Donc, on sait que quand une eau arrive, alors admettons, dans ta bouteille de 5 litres, tu prends une bouteille de 5 litres, hein, de l'eau, on va dire normale, enfin basique, quoi, du robinet, et tu mets un de ces 2P dedans, hein, tu essayes d'en avoir au moins deux quand même, hein, deux à peu près de la même taille, et puis tu remets un dans une bouteille de 5 litres. Tu fermes, hein, toujours fermé, d'accord? Et puis ensuite, tu prends un verre, hein, et tu mets, on va dire, un demi-verre, mais vraiment un petit verre, hein, et tu mets l'autre cristal. Et puis tu dis, voilà, tu vas faire tes mesures dans 2 jours. Et puis dans une semaine. Et tu vas voir que la progression de l'eau qu'il y a dans le verre est énorme comparée à l'autre. Ensuite, nous savons que il suffit d'une petite quantité d'eau pour changer une bouteille de 5 litres, par exemple. Donc, ce qui veut dire que si tu prends ton eau, tu prends un autre bidon de 5 litres et que tu verses ton demi-verre d'eau dedans, tu vas voir que dans les 2 heures à suivre, la totalité de tes 5 litres d'eau vont être au même niveau d'énergie que ton verre d'eau. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas le fait de dire oui, mais j'ai un cristal et ça fait un certain temps qu'il est dans l'eau. Parce que quand tu mets un cristal dans l'eau, c'est bien. Alors, si tu le mets dans une bouteille et tu dis oui, 3 jours après, je bois et tac, je recommence. Donc, il y a une certaine dilution qui se fait. Eh bien, l'objectif, en fait, est de faire des étagements. Et moi, pour arriver à un maxima, eh bien, j'ai fait plusieurs étagements. C'est-à-dire que j'ai une bouteille de référence. Une. Et cette bouteille de référence, eh bien, c'est simple, je l'ai remplie. Vous allez me dire, c'est selon les moyens de chacun, mais moi, je fais mes essais, je fais mes trucs. Eh bien, je l'ai remplie la moitié de la bouteille avec des cristaux. La moitié. Et de cette moitié, ben, je rajoute l'eau. En fait, il n'y a pas 1 litre d'eau. Il y a, on va dire, 0,6 flotte dedans. Parce que là où il y a tous les cristaux, il n'y a pratiquement plus d'eau, quoi. Hein, tellement qu'il y en a. Et ensuite, de cette eau de référence, eh bien, j'ai 6 autres bouteilles à côté que je. Comment dire? Où il y a toujours aussi un fond, avec quelques cristaux dedans, un fond d'eau encodée, parce que je ne les vide jamais entièrement, et je les remplis, on va dire, jusqu'au 9 dixième. Et c'est mes sous-références. Donc, quand je veux remplir un bac complet avec mes 20 bouteilles de flotte, qui, elles, ont aussi leur eau de référence, eh bien, ce que je fais, j'y vais par étapes. D'abord, quand toutes mes bouteilles sont presque vides, eh bien, je remplis avec de l'eau, on va dire, normale. Et je remplis jusqu'à, on va dire, les 9 dixièmes. Pendant ce temps-là, ce que je fais, c'est que je prends mon eau de référence 1 et je vais compléter, avec cette eau de référence 1, les 6 bouteilles de sous-référence. Ça veut dire qu'elles sont déjà montées en puissance, mais là, elles prendront le dernier cri. Elles ne vont pas demander longtemps pour vraiment être au top du top du top. Donc le résultat, le lendemain, enfin généralement, ouais, le lendemain, je laisse 24 heures, le lendemain, je me retrouve avec 6 bouteilles qui sont mon eau de référence dernier cri. Et partant de là, eh bien, je vais aller les vider dans mes 20 bouteilles qui, elles, bah, en 24 heures, se sont mis quand même, par rapport à l'eau initiale, se sont mis en référence de la troisième, c'est-à-dire ce qui est resté au fond de la bouteille. Et je sais que le temps que je commence à taper dedans, eh bien, ces 20 bouteilles, quand j'aurai même à peine commencé la première, que les 19 autres bouteilles seront montées à l'eau de référence maximale. Donc j'ai fait un truc à étage. Bon, c'est une méthode. Et puis j'ai deux bacs, hein, 2 fois 20 bouteilles, qui fait que quand bah, y a un bac qui est complètement vide, ben, l'autre il est plein, prêt à être consommé. Et je fais tourner comme ça. C'est une méthodologie, ça vaut ce que ça vaut, mais ça marche bien. Alors, l'autre chose, mes 6 bouteilles de référence, de sous-référence, se trouvent à côté de ma bouteille de référence. C'est-à-dire que quand même, ça monte aussi en puissance. Alors ça, c'est déjà un élément. La deuxième, c'est que vous avez, à ce moment-là, aussi la possibilité d'augmenter assez considérablement l'élévation par le feu du cœur. Et il est vrai que si tu donnes un feu du cœur sur ta bouteille de référence, tu vas voir que ça va monter très très vite. Donc, je vois ça, Romain qui dit « ça fait beaucoup de C2P », oui, mais il suffit de voir plus petit. Tu prends un verre, tu mets 2 ou 3 cristaux encodés dedans, sans plus, un verre, pas plus. Tu laisses monter et tu balances feu du cœur, feu du cœur, feu du cœur. Et tu laisses monter la patate au maximum. Ensuite, eh bien, tu vas verser ça dans une bouteille de 5 litres à côté, qui va monter en puissance, on est d'accord. Et tu continues ton job sur ton verre d'eau. Vous savez, vous pouvez trouver, enfin je dis le verre d'eau, mais vous pouvez trouver des petites bouteilles, 1/3 de litre, un truc comme ça, toi. Alors essayez les bouteilles de verre, évitez le plastoche. Et une fois que tu consciemment peux en des délais extrêmement rapides faire que ta petite bouteille dépasse tout l'entendement possible. Et tu balances, et tu balances. Et à chaque fois, tu remets dans ta bouteille de 5 litres, qui, elle, va monter à la fréquence totale. Partant de là, de cette bouteille de 5 litres, tu vas pouvoir distribuer dans toutes les bouteilles que tu veux, parce que tu auras de la quantité. Donc, il faut d'abord arriver à faire un concentré extrêmement fort, qui va ensuite, non pas se diluer dans une bouteille de 5 litres, mais qui va faire que la bouteille de 5 litres va devenir aussi un concentré. Mais comme là, il faudrait beaucoup, on va dire, de C2P pour que ça continue à monter en puissance au même régime, tu gardes ta petite bouteille. Et c'est avec ta petite bouteille que tu fais avancer, comme dirait l'autre, le schmiblick. Donc c'est ça, on va dire, la technique que j'ai développée en plus de celle que je vous ai donnée, parce que bon, c'est avec l'expérimentation qu'on découvre, c'est que, en fait, avec peu de moyens, on arrive à faire beaucoup. Mais bon, il faut réfléchir un tout petit peu. Donc, réfléchissez, ayez une petite bouteille de rien du tout, on va dire 1/3 de litre, une bouteille de bière, vous savez, une canette de bière, enfin une bouteille petite, où vous mettez 2-3 de C2P dedans et vous la montez au maximum que vous pouvez. Feu du cœur, enfin vous faites la totale. Et là vous allez voir que vous ne pourrez pas avoir une eau qui se dit ouais, bah ça se trimballe à 9000 unités bovis. C'est impossible. C'est impossible. Hein? Voilà, bon, j'espère que vous avez compris globalement ce que je vous ai raconté là, parce que c'est comme ça que on arrive à monter vraiment haut dans les fréquences, enfin par rapport aux capacités, on va dire, de monter en puissance, hein. Alors, donc ça c'était, voilà, donc là, pour revenir à Marielle, bien, écoute, 12 bouteilles, bah, ça serait tes bouteilles finales, on dirait celles de consommation. Alors mets entre les deux une bouteille de 5 litres et en eau de référence, disons que ça sera ta bouteille de 5 litres, une sous-référence, hein, l'intermédiaire. Et ensuite, eh bien, mets une bouteille, je te dis, de 33 centilitres ou un truc comme ça, qui serait vraiment celle que tu vas donner toute ton attention. Alors, essayez que ça soit une bouteille de verre. Hein. Donc moi, pour des raisons, on va dire, d'essai, j'ai pris que des bouteilles en verre. Donc je suis allé sur Internet et j'ai acheté tout simplement 50 bouteilles de verre. Donc c'est des cartons de 50. Ça coûte 1 euro, alors je sais plus c'était combien, 1,12€, enfin bon. Et là, vous êtes sûr que vous avez, on va dire, des bouteilles propres, c'est-à-dire qui ne sont pas incrustées par l'odeur ou truc de jus, de machin. C'est nickel chrome. Et donc, quand vous aurez de l'eau osmosée, Et plus, il est évident que le plastique, il va falloir le virer d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard. Hein? Dites-vous bien que, nous, avec les essais qu'on a faits, le plastique se décompose, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que même qu'il n'y ait plus de chlore dans certaines bouteilles de plastique, eh bien, ça décompose. Le plastique ne tient pas la charge quand il y a la finesse et en même temps la puissance. Voilà. Donc, tout ça, c'est... Après, ben, vous allez voir que vous allez dire, oui, mais bon, ça coûte des sous. Oui, mais bon, vous allez voir qu'au fil du temps, l'eau, c'est vraiment ce qui va vous rester. Vous n'aurez plus besoin de manger. Parce que les choses que nous sommes en train d'expérimenter apportent, on va dire, des éléments qui dépassent l'entendement. Parce que, comme je vous le disais tout en début, eh bien, les scientifiques ou les commerciaux vendent certaines solutions, les mettent en opposition avec d'autres, toujours opposition pour des raisons commerciales, et en fait, elles sont toutes complémentaires. Et quand vous savez les mettre ensemble, les marier ensemble, les harmoniser ensemble, eh bien, quand vous mettez l'eau 1 plus l'eau 2 plus l'eau 3 plus l'eau 4, vous n'avez pas 4, vous avez 25. Une puissance 25. Vous avez des trucs qui n'existent pas quand tu sais pris indépendamment. Et donc, tout ça, nous avons pu le faire grâce à nos guides qui regardent ce que fait l'eau sur nous et qui sont capables de voir les bénéfices. Mais aussi, bon, les trucs qui pourraient pas jouer, mais bon, comme c'est quand même généralement que du bon individuellement déjà au départ, simplement, c'est que ça booste l'ensemble. Bien, une question de Bruno. C'est très curieux, même sensation avec l'eau encodée que je bois depuis juillet dernier, il se passe quelque chose depuis environ un bon mois pour ma part. Soit elle devient trop forte et mon corps a du mal, ou bien j'en ai moins besoin car mon corps va mieux d'un seul coup. Ou bien, une autre raison. Comme si elle n'était plus ce qu'elle était, c'est curieux comme sensation en fait. Bien, alors, ce qu'il faut regarder, c'est que l'eau est une chose, c'est que nous nous recevons. Actuellement, et d'ailleurs depuis un certain temps, hein, on va dire depuis Noël hein, quasiment, nous avons de nouvelles énergies qui nous tombent à bras raccourcis dessus, ce qui bien sûr amène un impact non négligeable sur l'action de l'eau sur nous. Voilà, donc ça c'est déjà le premier élément. Le deuxième, c'est que quand on commence à s'habituer à quelque chose, eh bien on ne le sent plus. Donc ça ne veut pas dire qu'elle ne fait plus son travail, ça veut dire que tout simplement, elle n'a plus... vous n'avez plus le contraste et vous ne voyez de moins en moins son effet. Dire ouais bon il se passe plus rien, voilà, il se passe quelque chose, mais comme je vous dis, là vous avez vu un grand contraste, c'est parce que bon elle avait décapé on va dire pas mal en surface, et maintenant qu'elle commence à rentrer en profondeur, ça prend plus de temps et donc votre corps effectivement est obligé hein, de des fois de vous demander de boire moins d'eau parce que il a déjà trop de boulot avec les nouvelles énergies qui lui tombent dessus. Car votre corps physique a quand même une limite de traitement. Il peut pas, si c'est comme à la poste, hein, si la factrice ça peut gérer 150 courriers par jour, si tu lui en mets 300, eh ben un peu plus. Donc forcément, elle est obligée de rétrécir les tuyaux quelque part de telle manière qu'elle puisse gérer. Quand même ce qu'elle peut. Donc la seule variable sur laquelle nous pouvons jouer est effectivement sur la quantité d'eau. Parce que on ne peut pas jouer sur les énergies qui nous tombent du ciel hein, et qui nous viennent aussi de la Terre, ça on ne peut pas le gérer. Et votre corps, lui, je vous rappelle, hein, le moteur de la Terre, un des 2D, il écoute d'abord ce qui lui est envoyé par Mama Urantia Gaïa ainsi que par le Soleil. Ça c'est prioritaire sur tout le reste. Donc quand vous buvez de l'eau, eh bien ça passe par la 3, troisième chakra, l'estomac, et ensuite les reins, tout, etc. Donc il faut savoir que les énergies passent en priorité par rapport à l'eau encodée. Hein? Donc moi je vois cela, on va dire, tous les jours, dans le sens où je bois principalement la nuit. C'est-à-dire, c'est pas pendant le jour, j'ai mes activités, je me sens pas boire, non. Vous savez, Je suis un mec, donc moi les infusions, c'est pas mon truc, et courir après, non. Par contre, la nuit, je bois. C'est-à-dire que ben, je me réveille, je pisse un boc. Alors, j'ai l'avantage de pouvoir le faire dans une bouteille ou deux. Donc, des bouteilles de 2 litres. Et c'est comme ça que je sais combien je bois et ben, combien qui ressort. Et donc, il y a des nuits, je vais boire une demi-bouteille et je vais pisser un quart de bouteille. Enfin, bon, on va dire une demi-bouteille, 1 demi-litre. Donc, je me dis, ok, j'ai bu 1 demi-litre. Et il y a des fois, eh bien, je vais pisser 4 litres. C'est-à-dire, j'ai passé de mes 2 bouteilles et j'aurais bu, on va dire, peut-être 3 bouteilles, 3 bouteilles et demie. Et vous dire, oui, mais ça va être vachement plus clair. Pas du tout. C'est-à-dire, des fois, je vais vraiment pisser 4 litres, mais je peux vous dire que c'est plus la couleur de la terre que la couleur de l'eau transparente du robinet. Hein. Donc, non. C'est-à-dire qu'il y a des vagues. Il y a des vagues de nettoyage et quand le corps a une possibilité d'évacuer, on va dire, il le fait. Et là, il faut beaucoup d'eau. Donc, ben voilà. Donc, pendant la journée, ben, je bois presque pas. Enfin, je bois, mais pas 3 litres. Mais la nuit, il est évident qu'il me faut à minima. Je vais pas au lit si j'ai pas 4 litres de flotte à portée de main. Donc, j'ai 4 bouteilles systématiquement. C'est le minima syndical. Voilà. Alors des fois les nuits peuvent durer longtemps. C'est-à-dire que je peux aussi être couché, on va dire, des fois ça m'arrive hein, parce que ça me tombe dessus, être couché à 9h et me relever à 14h le lendemain. Donc ça peut être des nuits longues aussi, ça dépend. Mais des fois ça va être des nuits très courtes. Je vais me coucher à 11h et puis à 4h du matin ou 3h du matin je suis debout, je peux plus rien faire. Mais ça m'aura peut-être pas empêché de pisser 2 litres quand même. Hein. Donc tout est variable et c'est ça que nos guides nous disent, c'est que plus nous buvons de l'eau encodée, plus nous sommes en phase avec l'horlogerie cosmique. Et l'horlogerie cosmique, eh bien c'est elle qui commande. Et donc quand il y a des apports d'énergie, d'information principalement, que le corps doit digérer, eh bien il met en stand-by le reste. Et c'est normal. Si vous avez des invités, vous arrêtez de faire le ménage. Puis après, quand les invités sont partis, ben, vous pouvez recommencer votre ménage. Ben, c'est ça. Hein. Voilà. Alors, une question de Marie. Dimanche dernier, je t'ai posé une question concernant l'incorruptibilité des corps des saints et l'utilisation qu'en faisaient les involuants sur ces êtres, notamment sur Bernadette Soubirous. J'ai suivi tes conseils pour aider éventuellement son âme à se dégager des égrégores qui l'emprisonnent. Résultat, voici une semaine que j'ai posé dans un petit plateau la photo de son corps incorruptible. Je l'ai recouvert totalement de cristaux quartz translucides que tu as encodés chez moi. Au-dessus du plateau, dans l'alignement vertical, se trouve un tableau d'une croix, Ankh, évidée, croix égyptienne dont la fonction évidée est d'absorber toute énergie sombre. Et au-dessus de ce cadre, il y a la photo du suaire de Turin que tu avais regardé un certain temps sans commentaire. Depuis 3 jours, la croix égyptienne et le tableau du suaire sont arrachés du mur plusieurs fois par jour en alternance. C'est un peu effrayant, mais je ne veux pas céder à la peur. Ma question, penses-tu que c'est une réaction liée aux égrégores catholiques sur Bernadette, ou bien est-ce une incompatibilité vibratoire des cristaux avec la croix et le suaire? Le plateau avec la photo et les cristaux ne bouge pas. Que conseilles-tu de faire? Je remarque en même temps une légère aggravation de mon état physique. Cela peut-il être dangereux pour moi? En fin de compte, à quoi sert réellement la corruptibilité des corps des saints, sinon qu'ils soient masos de choisir un tel destin? Alors Marie, il y a plusieurs, on va dire, réponses, il y a plusieurs paramètres à prendre en ligne de compte. Et d'abord, dans un premier temps, c'est que bon, tu as l'air de focaliser beaucoup sur Bernadette, et que tu pars du principe que son corps de saint, on va dire, est incorruptible. Et ça te peine de le voir, on va dire, coincé et peut-être, forcément, peut-être sucé par les involuants. Bon, là maintenant, pose-toi véritablement la question, qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Parce que qui t'a demandé d'essayer de faire une bonne action ou d'essayer d'aller à l'encontre, enfin à l'encontre, de libérer Bernadette? Parce que, en fait, tu sais pas qui t'a en face. Alors, il y a Bernadette, mais il y a tous ceux qui sont autour. Et donc, tous ces égrégores, tous ces involuants, tu sais à qui tu t'adresses et tu sais quelle puissance ils ont? Non. Donc, si, on va dire, ta personnalité te pousse à dire, ouais, mais ça serait bien de le faire parce qu'il faut lui rendre service et ceci et cela, va plutôt voir de ce côté-là. D'accord? Mais sache une chose, c'est que si il se passe des choses absolument anormales avec ce que tu fais, il est normal que tu aies des contre-coups. Car si tu déranges les involuants ou tu veux leur couper le cordon ou tu veux faire un truc pour libérer Bernadette, ils vont pas se laisser faire. Donc, si à côté tu as des, on va dire, des aggravations de ton corps physique, sincèrement, je serais que toi, j'arrêterais l'expérience. Ça veut dire que tu n'es pas pour l'instant équipé pour pouvoir jouer avec les adversaires qu'il y a en face de toi. Alors maintenant, à toi de choisir. Est-ce que tu vas laisser à ta personnalité, à ton mental ego, la joie d'aller au front, quitte à te faire flinguer et à t'arrêter sur la voie? Ou soit d'avoir beaucoup plus d'humilité, dire, bon, c'est trop tôt. Je ne suis pas à la hauteur, j'ai essayé, c'est bien, maintenant je sais à quoi j'ai affaire. Alors maintenant, j'abandonne et je laisse tranquille. Parce que des fois, en voulant libérer, on crée plus d'emmerdes. Parce que dis-toi bien que les involants, ils disent, ouais, bon, il n'y en a pas un pèlerin qui va venir libérer Bernadette, donc on met les systèmes de sécurité minima. Maintenant qu'ils voient qu'il y en a qui commencent à avoir quelques outils et à vouloir faire des choses, ils vont se dire, s'il y en a, ils commencent à gratter là, on va avoir des ennuis, donc on renforce la sécurité. Donc ce qu'il va faire, ce que ça veut dire, c'est que les prochains qui viendront derrière et qui auraient eu les capacités de libérer Bernadette, on va dire, parce qu'ils avaient les capacités de le faire, eh bien ne pourront peut-être plus le faire parce qu'il y aura eu double sécurité. Donc, faut pas jouer, enfin moi personnellement, je ne joue pas ce genre de choses. Hein, je fais les choses en fonction de l'autorisation qu'on me donne de le faire. Et croyez-moi que dans certaines églises, il y a certaines choses que nous n'avons pas fait, moi et Corinne, parce que nous n'étions absolument pas à la hauteur de toucher la chose, parce que ils font comment dire, ils font des systèmes en cascade. C'est-à-dire, tu sais, c'est le principe des dominos. Tu dis, ouais, mais ça c'est rien, c'est juste un petit caillou, tu le débloques. Et puis, pense, ça va débloquer un plus gros caillou qui, lui, va débloquer un autre plus gros caillou. Et tu te retrouves avec l'église qui te tombe sur le dos, quoi. Et tu dis, non, j'ai fait juste que donner un coup de savate ou botter un petit caillou là. Donc, nos guides sont là et nous, nous ne prenons jamais, jamais la décision sans demander à nos guides. C'est-à-dire que si nos guides disent oui, tu peux, on y va. S'ils disent non, faut pas, on n'y va pas. Parce que eux, ils voient, ils savent, nous pas. Donc, faut avoir cette humilité-là. Hein? Donc, moi, je serais que toi, Marie, là, je lèverais le truc et je dirais, bon, d'autres feront le travail si je peux pas le faire maintenant. Parce que je ne suis pas encore au niveau. Voilà. Ok. C'est tout ce que je peux te dire. Une question concernant les chats. Une question de Payot. J'ai une petite question à propos de mon chat. En effet, tu as parlé d'eux il y a quelque temps de ça. Il serait là pour nous aider à rester dans le droit chemin en quelque sorte. Il n'y a pas de droit chemin. Le mien me fuit systématiquement, même un simple croisement du regard suffit à le faire déguerpir. On arrive à voir la peur dans ses yeux. Au contraire, avec ma femme, c'est carrément fusionnel. Je ne parle pas de mes enfants avec qui elle se comporte véritablement comme un compagnon de jeu. Pourquoi? Ben, ça veut dire que tout simplement, si le chat te fuit et ne fuit pas les autres, c'est que tout simplement tu as sur toi une entité qui est fortement involuante et ton chat n'y peut absolument rien. Donc nous avons eu le cas, on va dire, parmi nos proches, on va dire, où effectivement la personne avait plusieurs chats et d'un seul coup tous les chats ne voulaient plus l'approcher, alors qu'elle a passé sa vie à les caresser. Et donc elle s'est adressée à nous et on a été poussé le bouchon un peu plus loin et on s'est rendu compte qu'effectivement elle s'était fait, on va dire, infester parce qu'elle avait été à un enterrement. Et quand elle est revenue de l'enterrement, les chats, ils ne voulaient plus la voir. Ils disaient, mais mes petits cocos, c'était des petits chats en plus tout mignons. Hein, mes cocos, ils volent plus. Et donc, on a regardé ça, on va dire, via les aides de la nature, et à distance, hein, par téléphone, mais bon, bah, bref. Et le résultat, eh bien, une fois que le nettoyage a été fait, eh bien, les chats sont revenus, il n'y a pas eu de problème. Donc, si tous tes chats vont voir les enfants et ta femme et c'est fusionnel, c'est super. Et s'il ne vient pas vers toi, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu as chopé et qui est absolument abominable et que le chat ne veut absolument. Il fuit, hein, il fuit, quoi. Hein? Donc là, eh bien, faut te faire décrasser. Une question de panda. Un jour, en me réveillant à cause de sifflements dans les oreilles, en général c'est ce qui m'arrive quand un être de l'invisible veut me parler, j'ai demandé à savoir qui c'était. Et la réponse est que c'est un gardien de mes compagnons cristallins. Bien sûr que mes compagnons me le confirment, et qu'il n'est pas de la terre ni de l'astral. Comme si c'était moi-même, mais de l'autre côté du voile, un gardien de matière et l'autre des terres. Il se peut aussi que j'ai loupé certains enseignements sur tes blogs. A priori, oui, disons que. Il faut savoir que les esprits cristallins, surtout ceux avec lesquels nous travaillons et que nous avons une très grande affinité, sont en fait une partie de nous-mêmes dans certaines dimensions. Donc il va y avoir, on va dire, plusieurs esprits cristallins qui vont te contacter. Et parce qu'ils sont dans des dimensions différentes, mais tous ces esprits cristallins sont toi. D'accord? Donc c'est pour ça que moi j'ai plusieurs crânes. Plusieurs donc esprits cristallins qui sont moi, mais ils ne sont pas dans la même dimension. Donc ce sont des parties différentes. Je vois une question de Philippe, me faire décrasser par qui? Eh bien bon, magnétiseur on oublie, radiesthésiste on oublie, et c'est il faut comment dire? Il faut déjà contacter quelqu'un que tu sais qui voit dans l'invisible et qui est en relation directe, on va dire, avec les dragons ou les EDL de feu, comme on dit. Hein? Voilà. Donc, nous l'avons fait une fois parce que bah, c'était une personne, on va dire, de la famille, mais on n'est pas là pour le faire parce que sinon, vous imaginez bien que dans la semaine, j'aurai 150 demandes. Donc, ça, nous ne sommes pas là. Et d'ailleurs, on nous a aussi interdit de soigner les êtres de la nature, parce que sinon, ben, on est envahi. Donc, nous ne sommes pas, moi et Corinne, des thérapeutes, mais il existe d'autres personnes qui ont cette capacité. C'est à toi de faire la demande, on va dire, à l'univers, et en faisant la demande, eh bien, viendra à toi. Donc, si tu es en contact avec un esprit cristallin ou avec un être de la nature, voire avec un dragon, eh bien, tu demandes. Et les choses seront faites de telle sorte que tu rencontres la personne qui pourra t'aider à le faire. Une question de Brigitte. Peux-tu expliquer ce que veut dire intégrer les crânes de cristal? On n'intègre pas un crâne de cristal parce qu'un crâne de cristal, c'est un bloc de matière. Par contre, un esprit cristallin, oui. Et cet esprit cristallin, c'est tout simplement toi. Donc quand on dit intégrer, ça veut dire que tu refais la reconnexion avec une partie de toi-même. C'est-à-dire que l'esprit cristallin, rappelez-vous, il y a cinq niveaux d'activation. Ça commence à devenir intéressant au troisième. C'est-à-dire que l'esprit cristallin peut vous mettre, on va dire, peut vous faire venir dans ce qu'on appelle la salle de contrôle. Et de cette salle de contrôle, il peut vous emmener où vous voulez. Donc, grosso modo, c'est, on va dire, une partie de vous, enfin une partie de vous. Je ne sais pas quoi dire. Allez, on va dire, il met votre âme dans le sac à dos et puis il va se balader, quoi. Hein? Et donc, vous allez pouvoir à ce moment-là vous balader et découvrir des tas de choses. Ça, c'est l'activation 3. L'activation 4, c'est que votre esprit cristallin se pose sur vous. Hein? Vous savez que nous sommes comme un œuf. Hein? C'est-à-dire qu'il y a une coque. Eh bien, l'esprit cristallin se pose sur la coquille, mais on ne rentre pas dedans. Et donc là, eh bien, vous allez sentir que vous avez quelqu'un sur les épaules et puis que bah, ça fait des choses. On est d'accord. Et une fois que ça s'est fait, que vous êtes habitué à sa fréquence, à ce moment-là, il sera, on va dire, excusez-moi, comme un spermatozoïde. Il va se dire, maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer dans l'ovule. Et donc, ça, c'est l'activation 5. C'est-à-dire que, grosso modo, eh bien, il va, sous certaines conditions, rentrer. Et ces conditions sont relativement très simples. Il faut que vous soyez à une certaine fréquence, parce que imaginez que le spermatozoïde ne peut pas traverser la peau de l'ovule comme ça, là. Il faut que la peau de l'ovule s'ouvre, parce que sinon, vous défoncez tout, là. Et puis après, bah, l'ovule, il se vide. Donc, non, ça veut dire qu'il y a un passage, comme une porte. Et donc, cette porte s'ouvrira quand vous aurez la fréquence nécessaire pour qu'elle s'ouvre. Et donc, aujourd'hui, un certain nombre d'entre vous ont bénéficié de cette ouverture de porte, soit spontanément parce que vous avez su le faire en suivant votre petite voix, soit par l'aide d'un esprit cristallin autre qui vous a guidé pour le faire. Hein, donc, tous les gens, par exemple, qui ont participé au cordon de Léa sont systématiquement passés à cette étape, c'est-à-dire que il n'est pas possible, on va dire, d'assister à une cérémonie du cordon des Léas sans être capable de porter son esprit cristallin. Donc, systématiquement, tous les gens qui, on va dire, ont assisté ont tous eu la séance leur permettant de pouvoir porter leur esprit cristallin à l'intérieur d'eux. Ok, donc ça sera quelque chose qui va être, on va dire, généralisé, hein. Et c'est pour ça que vous le savez qu'il y a un onglet quelque part pour débouchage dopage cristallin. Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que le débouchage dopage cristallin, c'est-à-dire que nos amis extragalactiques sont là pour vous déboucher les tuyaux afin que ça aille plus vite, quoi. Parce que le problème, c'est que notre œuf, hein, dans la majorité des cas, a une coquille tellement épaisse et merdique et involuante qu'il n'y a rien qui va passer, quoi. Donc, notre esprit, enfin, les esprits, parce qu'ils sont trois, vont travailler en quelque sorte pour, on va dire, dégager une partie de l'œuf, un petit peu, vous savez, comme une infirmière qui dit, ben oui, mais avant comment dire, d'inciser la peau, il va falloir nettoyer, vous savez, on nettoie la peau, on fait que tout soit clean, etc. Puis après, on peut peut-être faire la piqûre ou le truc pour être sûr qu'on ne va pas infecter l'intérieur par la crasse extérieure. Donc, nos esprits cristallins, nos chers esprits cristallins extragalactiques, sont là pour jouer, en fait, à la chirurgie qui nous permettra, enfin, du moins à tous les gardiens qui le demandent, de pouvoir avoir, on va dire, un service d'ouverture de porte, on peut dire. Alors, voilà. Le cordon des Léas, une question de Abeille. Pourrais-tu parler plus en détail de la cérémonie du 21 décembre dernier et des nouveautés apportées au déroulement et as-tu eu des nouvelles dernièrement des effets? Alors, le 21 décembre, il faut que je me rappelle déjà ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait déjà? Oui, bon, on a fait déjà le 12 plus 1 avec. On a commencé à compléter le deuxième cercle, effectivement. Mais je me souviens plus, sincèrement. Mais il y a eu quelque chose, c'est clair. Bah oui, on avait déjà notre copain extragalactique Xou qui était là déjà, donc qui avait, il me semble, travaillé sur les personnes. Mais je ne peux plus dire exactement, car depuis, il s'est presque passé, on va dire, bah, plus d'un mois. Hein, et il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses qui sont arrivées depuis, car il y a des choses en préparation par rapport au 21 mars et surtout le 21 juin. Donc, je rappelle, normalement, le 21 juin, nous devrions faire le cercle complet des 24 plus 1. Hein? Donc, quand on dit 24 plus 12 plus 1, hein, pour être plus précis. Et donc, le 21 mars va être une solution intermédiaire où, bien sûr, nous allons compléter le cercle, le deuxième cercle des 24. Nous allons compléter au mieux qu'on peut, en fonction des individus qui se seront manifestés. Et le 21 juin, il devrait y avoir, on va dire, une opération très spéciale en plus de ça. Mais pour l'instant, c'est top secret. C'est top secret. Je ne peux pas en parler. Mais sachez que les esprits cristallins sont en train de travailler d'arrache depuis le 21 décembre, car, on va dire, pour ben, jusqu'au 21 juin, il y a des choses, mais exceptionnelles, qui vont se passer. Donc déjà la cérémonie du 21 mars jusqu'au 21 mars, ils vont, on va dire, ils sont en train de faire des trucs. Mais bon, je peux pas en dire plus, je suis désolé, car vous le savez, les Involvants font tout pour nous ralentir, et moins ils sont au courant de ce qu'on fait, et mieux ça se passe, et mieux on se porte. Dites-vous bien que tout Involvant, tout être de l'invisible, qu'il soit dans la partie sombre ou la partie lumineuse, est capable de vous lire, de lire vos mémoires. Donc même si je vous dis quelque chose et que vous n'en parlez absolument à personne, ils sont capables d'aller ouvrir le livre et vous regarder. Je sais que ça peut paraître invraisemblable, mais c'est la vérité. Parce qu'ils peuvent aussi prendre les commandes. Ils peuvent vous faire rouler d'une manière pour que vous preniez un poteau, que ils peuvent vous manipuler à 100%. Donc, vaut mieux donc prendre des précautions. Et quand nous aurons fait les choses, ils seront devant un fait accompli et ils pourront plus dire, ah non, non, on va essayer de faire que ça échoue. Ça pourra pas échouer puisque nous aurons de toute façon fait la chose. Voilà.